RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Hugues Ranson, député de La République En Marche, vice-président de l'Assemblée nationale et candidat à l'investiture pour la mairie de Paris aux prochaines municipales. Donc bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et merci d'être là. Mais avant de parler de Paris, un mot sur la ville de Marseille, où était hier Emmanuel Macron. Le président cherche un candidat, mais pas seulement, il cherche peut-être aussi à faire alliance avec la droite. Le maire actuel, Jean-Claude Gaudin, a l'air favorable. Parce qu'il faut noter qu'aux européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 26%. Est-ce que la droite et La République En Marche sont en train de comprendre que seuls les Républicains ou La République En Marche ne pourra pas contrer le Rassemblement national sans faire d'alliance? Et en clair, est-ce que Marseille est le nouveau laboratoire des alliances?
Écoutez, moi, je me garderai de faire... d'avoir un jugement sur ce qui se passe à Marseille. Je suis élu de Paris, je suis candidat à Paris.
Et enfin, on y a vu Emmanuel Macron, Brigitte Macron.
Je n'apprécie pas plus que les Parisiens du reste, quand des élus d'autres régions portent des jugements sur ce qui peut
Mais
se passer
pas un jugement,
à Paris. Donc je me garderai d'avoir des avis sur ce qui peut se passer à Paris. Ce que je crois, c'est qu'il y a des candidats de La République En Marche à Marseille qui porteront... avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'enthousiasme, le projet progressiste de La République En Marche à Marseille comme ailleurs. Moi, je ne souhaite pas nécessairement que nous fassions des alliances avec les Républicains. Les Républicains, c'est la principale force d'opposition à Emmanuel Macron. C'est la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale contre les projets que nous menons et contre les projets de transformation que nous votons depuis 2 ans. Les Républicains se sont construits, à l'occasion des élections européennes, une nouvelle doctrine, qui est une doctrine de l'anti-Macron. Ils se sont construits, ils ont prôné le tout sauf Macron. Ça les a menés dans le mur, et je ne suis pas sûr qu'il faille, pour gagner des villes, s'allier avec la principale force d'opposition. Pour autant...
Quitte à perdre la ville ou pas la...
Pour autant, ouais. La question du Rassemblement national est une question qui se pose. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant 10 ans auprès de Jacques Chirac, je considère que les digues contre l'extrême droite et le Rassemblement national est sans aucun doute une force d'extrême droite. Eh bien, les digues doivent être infranchissables. Elles se sont érodées depuis quelques années. Je souhaite qu'elles soient reconstruites. Et s'il y avait un risque d'une victoire du Rassemblement national à Marseille, évidemment, il faudrait que notre force politique puisse juger de ce la meilleure façon de lutter contre l'extrême droite. Mais je crois qu'au premier tour. Saïd Hamada, qui a annoncé son intérêt pour cette élection municipale, qui est un député de la majorité, pour lequel j'ai amitié et pour lequel j'ai du soutien, eh bien, je crois que nous devons mener le combat sous nos propres couleurs.
Les digues, on les construit pour lutter contre des phénomènes naturels, en principe. Est-ce que la montée de l'extrême droite est un phénomène contre lequel, finalement, on ne peut rien et contre lequel on peut juste essayer de se protéger par des artifices?
Écoutez, la montée de l'extrême droite, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas récente.
Oui, mais vous dites les digues ont commencé à céder.
Les digues ont commencé à céder parce que quand je vois la composition de la liste du Rassemblement national aux élections européennes, avec la présence de Thierry Mariani comme d'autres élus qui n'étaient pas des élus du Front National, mais qui se sont rapprochés petit à petit du Front National, du Rassemblement national et de ce que porte l'extrême droite aujourd'hui dans ce pays, je suis évidemment inquiet. Mais vous savez, lutter contre l'extrême droite, ce n'est pas de l'incantation, ça ne doit pas être que des paroles. On lutte contre l'extrême droite en ayant des résultats dans ce pays. Des résultats en matière de politique économique, en matière de politique sociale. Des résultats quand on met des services publics partout sur le territoire et que les Français ne se sentent pas abandonnés. C'est comme ça que nous arriverons à lutter contre l'extrême droite en ayant des résultats.
Alors on va parler de Paris puisque ça vous concerne, puisque vous êtes candidat donc à l'investiture, mais vous êtes 6 sur la liste à attendre. Ce sera mi-juillet, mais on a l'impression que c'est vraiment OK Corral à Paris. Pour votre parti, vous serez départagé mi-juillet, mais vous contestez la façon dont ce sera fait.
Je ne conteste pas la façon dont ce sera fait. Je conteste, et nous sommes plusieurs à contester, le calendrier tel qu'il nous a été récemment annoncé. Nous sommes 6 candidats qui ont des profils différents, des identités politiques différentes. Je vous l'ai dit, j'ai travaillé pendant 10 ans avec Jacques Chirac. Nous avons des rapports à la ville qui sont des rapports différents. Moi, Paris, j'y suis né. J'y ai vécu, grandi, j'y ai 3 enfants, j'y ai toujours travaillé, c'est ma ville, c'est ma vie. Nous avons des visions de cette ville qui sont différentes. Quand vous avez 6 concurrents, parce qu'il n'y a pas de drame à considérer que nous sommes concurrents, nous ne sommes pas adversaires, mais nous avons des projets différents, je crois qu'il est bon, qu'il est sain et qu'il est naturel que nous puissions en discuter entre nous sans aucun doute, en discuter avec les marcheurs et en discuter avec ceux que cela regarde, à savoir les Parisiens. Les Parisiens ont le droit de savoir ce que sont nos solutions, ce que sont nos propositions pour améliorer leur quotidien et leur ville à Paris.
Mais alors quel est le problème aujourd'hui? Parce que vous dites, montrons-nous exemplaires dans la désignation du candidat, fidèle à notre promesse de faire de la politique autrement. S'il faut que vous vous montriez exemplaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, le processus n'est pas exemplaire. Ce qui n'est pas exemplaire, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il ne faut pas suivre. Donc c'est ça aujourd'hui qui se passe?
Je crois qu'une décision rapide, verticale, prise entre les 4 murs d'un bureau de la rue Sainte-Anne, ne me paraît pas complètement conforme à une nouvelle façon de faire de la politique.
Vous ne pouvez pas le dire de manière plus explicite.
On a dit il y a 2 ans, je vais vous le dire de manière plus explicite, on a dit il y a 2 ans qu'on allait faire de la politique autrement. Ouais. On s'est battu il y a 2 ans contre les partis politiques, contre les méthodes étriquées des partis politiques, contre les frontières partisanes. Ne réintroduisons pas 2 ans après les méthodes que nous avons nous-mêmes dénoncées il y a 2 ans. Si Emmanuel Macron était passé devant un processus d'investiture, il ne serait pas aujourd'hui président de la République et je serais le premier à le regretter. Donc ce que je souhaite, c'est que nous ayons du débat, ce que je souhaite, c'est que nous puissions échanger, ce que je souhaite, c'est que nous puissions associer les marcheurs et les citoyens à ce processus de décision. Mais entre la décision prise, entre la décision prise par une commission d'investiture dans un bureau et une primaire, que je ne souhaite pas et que personne ne souhaite, il y a une voie. Cette voie, c'est celle du débat démocratique. Confrontons nos idées, confrontons nos propositions, parlons aux Parisiens de ce que nous avons comme idée. Pour eux, j'aurai moi-même à présenter demain un manifeste pour Paris avec des propositions très concrètes, et c'est de cela dont je veux parler, parce qu'il n'y a que cela qui m'intéresse.
Est-ce que vous pensez que, quel que soit le candidat, il pourra bouter Anne Hidalgo hors de son siège?
Vous savez, moi je l'ai dit, je ne suis pas complètement convaincu que battre Anne Hidalgo soit en soi un projet politique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on pourrait faire plus, différemment et mieux la majorité municipale
actuelle. Quel bilan, ça vous pouvez le dire, quel bilan faites-vous des années Hidalgo à Paris?
Mais le bilan des années Hidalgo, pardonnez-moi, mais nous le ferons l'année prochaine au moment de l'élection municipale. Il reste 1 an à la majorité municipale comme à l'opposition pour travailler. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on m'interroge sur mon bilan 1 an avant la fin de mon mandat. Pour autant, aujourd'hui, il y a à l'évidence un échec sur les questions du quotidien. Ce que je dis, c'est que Paris est une ville dont le cadre de vie se détériore. Paris n'est plus une ville où il fait bon vivre. Vous avez la pollution, la propreté, la sécurité, l'anarchie dans les rues aujourd'hui. Il y a un cadre de vie, une qualité de vie qui se détériore et parallèlement, vous avez un coût de la vie qui explose. Un coût de la vie qui explose notamment à cause du logement. Et quand vous avez un cadre de la vie qui se détériore et un coût de la vie qui explose, c'est une ville qui se vide.
Donc c'est un mauvais bilan.
12 000 Donc c'est un Parisiens, mauvais bilan. Bien sûr, que lorsque vous avez une ville qui se gentrifie avec des familles qui ne peuvent pas s'y agrandir, avec des jeunes qui ne peuvent pas s'y installer, avec des classes populaires et des classes moyennes qui ne peuvent pas y rester non plus, je crois qu'il faut qu'on puisse proposer quelque chose aux Parisiens, des solutions très concrètes. Ce sera mon obsession, mais mon obsession n'est pas de bouter Anne Hidalgo hors de Paris, mon obsession est d'apporter des réponses aux Parisiens.
Quel est le marqueur de votre candidature? C'est la question du logement?
C'est la question, j'en ai en tout cas 2 gros marqueurs. La première, c'est la question en effet du coût de la vie à Paris. J'ai une proposition qui est celle de déduire le coût du logement de la tarification des services publics municipaux. Si vous déduisez, si en gros ces tarifs municipaux sont calculés sur la base du revenu disponible après logement, c'est des crèches moins chères, ce sont des cantines moins chères, des activités périscolaires moins chères. C'est du pouvoir d'achat immédiat pour les familles. Et puis j'ai une deuxième conviction, c'est que les solutions aujourd'hui à Paris, elles se perdent dans un enchevêtrement politico-administratif absolument incompréhensible. Il y a trop de strates. L'arrondissement, la mairie centrale, la région, le préfet de région, le préfet de police, bientôt le Grand Paris. Il y a trop d'élus à Paris. 527 élus à Paris, c'est quasiment autant qu'à l'Assemblée nationale. Ce que je propose, c'est qu'on supprime le niveau des arrondissements. Pourquoi ? Parce que le niveau des arrondissements crée du conflit, de l'inefficacité et de la dilution des responsabilités. Lorsqu'il y a un problème à Paris, et les Parisiens qui nous écoutent le savent, Jamais personne n'est responsable. C'est tout le temps la faute de l'autre. Je crois qu'il y a un niveau de trop à la mairie centrale d'assumer sa politique et de pouvoir rendre des comptes, et aux quartiers et aux Parisiens eux-mêmes.
Côté chiracien, vous voulez revenir juste à une mairie de Paris.
Et aux Parisiens eux-mêmes, par des conseils de quartier redessinés, je crois en la démocratie participative, je crois en la démocratie locale, et je pense qu'aujourd'hui, c'est aux Parisiens, par des conseils des quartiers, qui auraient des moyens financiers et politiques, de pouvoir décider eux-mêmes de leur quotidien. C'est aux Parisiens d'avoir le pouvoir de décider sur
On parle beaucoup d'écologie en ce moment, bien sûr, et on va continuer à en parler longtemps. L'un des points noirs, quand même, à Paris, c'est la circulation. L'objectif d'Anne Hidalgo, c'est d'en finir effectivement avec la voiture, en tout cas d'embêter les Parisiens qui ou les Parisiennes qui roulent.
Je suis sûr que l'objectif d'Anne Hidalgo soit d'embêter les Parisiens. L'objectif d'Anne Hidalgo, c'est très certainement de réduire la place de la voiture à Paris, comme l'ont fait Jacques Chirac, Jean Tiberi, Bertrand Delanoë.
Oui.
Avant elle, il y a une politique constante de réduction de la place de la voiture à Paris.
J'entends
et
bien.
Le père de famille que je suis s'en satisfait.
J'entends bien, mais est-ce que si on essaie de minimiser la voiture à Paris, est-ce qu'il n'y a pas là un impensé, c'est-à-dire est-ce que on offre d'autres alternatives? Il y a rien qui a été développé. Regardez par exemple le problème des trottinettes. Bon, les trottinettes, ça a été il y a eu un drame il y a quelques jours puisque un homme a été renversé. Il y en a partout. Et ça devient un fléau. Mais voilà, comment empêcher les Parisiens
Sans aucun doute, il y a un problème de méthode. Je partage complètement l'objectif de réduire la place de la voiture dans Paris. Je pense, en revanche, qu'il faut que nous créions du consensus sur la question des mobilités à Paris. Ma proposition, celle qui figure dans le document que je rendrai public demain, c'est de créer une conférence des mobilités à Paris dès le lendemain de l'élection municipale pour mettre autour de la table les élus, bien sûr, les transporteurs, les usagers, les opérateurs des nouvelles mobilités, pour qu'on puisse décider de manière immédiate d'un certain nombre de mesures d'application directe et qu'on puisse dessiner à l'échelle de 10 ans, collectivement par la voie du consensus, ce que doit être le transport commun, collectif ou individuel à Paris. Je crois qu'il faut que nous puissions vivre dans une ville apaisée et dans une ville rassemblée, et c'est aujourd'hui le sens de ma candidature.
Pour en finir d'un mot, vous êtes sûr que, alors qu'il est, les jeux ne sont pas déjà faits et que c'est pas Benjamin Griveaux qui va être désigné parce que c'est le préféré du président de la République?
Si les jeux étaient faits, je ne serais pas aujourd'hui devant vous, et je vais vous dire quelque chose. Dans la vie politique parisienne et dans l'histoire politique à Paris, toutes les candidatures censées être naturelles, toutes les candidatures qui ont été imposées ont été des candidatures qui ont échoué. Parce que je crois dans cette nouvelle façon de faire de la politique. Parce que je suis authentiquement et passionnément parisien. Parce que je crois qu'il s'agit ici d'une élection locale avec des préoccupations locales et que nous devons apporter des solutions concrètes aux Parisiens. Je suis aujourd'hui candidat pour devenir le prochain maire de Paris. Et c'est en tout cas ce que je plaiderai dans les prochaines semaines.
Emmanuel Macron, Macron 2, y a-t-il vraiment un nouveau Macron? Et si oui, lequel?
Écoutez, on sort d'une séquence qui a été quand même, pour le pays, une séquence à la fois intense et compliquée. C'était la crise des Gilets jaunes, ça a été le grand débat. Je crois que le président de la République a su tirer les enseignements de cette période, considérant, et en faisant lui-même un mea culpa, qu'il fallait très certainement redonner du souffle à son action, redonner de l'humanité dans les politiques que nous conduisons, et en changeant de méthode. C'est aujourd'hui le sens de ce qu'on appelle l'acte 2, sur lequel nous allons nous mobiliser au Parlement, remettre l'écologie au cœur de notre action, remettre la solidarité et la justice sociale au cœur de notre action, changer de méthode pour écouter toujours davantage et mieux les Français, les corps intermédiaires, les syndicats, les élus locaux. Je crois que ça va dans le bon sens, c'est en tout cas ce que j'avais appelé de mes voeux il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est un diagnostic qui est partagé par beaucoup, et je crois que c'est ce qui va nous permettre de relancer la machine.
Alors, il y a en tout cas quelque chose qui ne va pas dans le bon sens du point de vue de la Cour des comptes, c'est l'évolution de la dette et du déficit. La Cour des comptes estime que la trajectoire budgétaire du gouvernement, revue à la baisse depuis le grand débat, comporte de nombreux risques. Les sages pointent en particulier le coût des mesures qui ont été annoncées pour répondre à cette crise des Gilets jaunes. Vous parlez de faire de la politique autrement, c'est vrai que c'était l'un des grands arguments d'Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, là, dans cette affaire, il n'a pas fait comme tous les autres? C'est-à-dire, face à une crise sociale, on sort le carnet de chèques.
Ce qui aurait été grave, c'est de ne rien faire, c'est de ne pas réagir.
Non, mais il était peut-être envisageable de faire autrement.
Se sont mobilisés. Il y a eu des corrections, sans aucun doute. On a On est revenu sur la CSG pour les retraités.
Et puis
on
des baisses d'impôts qui ont été annoncées. C'est de ça que s'inquiète la Cour des comptes.
Des baisses d'impôts sur le revenu. La baisse d'impôts, vous savez, moi je l'assume assez bien. On était dans un pays dans lequel la pression fiscale était très importante. Aujourd'hui, il y a une action volontaire pour que cette pression fiscale diminue. On peut difficilement nous reprocher notre action lorsque la pression fiscale est trop haute, et nous le reprocher également lorsque un gouvernement et une majorité s'efforcent de la diminuer. Aujourd'hui, j'entends les inquiétudes qui sont données par la Cour des comptes, mais je suis pleinement confiant dans la volonté du gouvernement à la fois de réduire la pression fiscale, parce que c'est ce qui bénéficiera aux ménages comme aux entreprises, et à la fois d'essayer de trouver des mesures d'économie. Bien sûr qu'il faut réduire la dépense publique. Bien
oui, mais
sûr
est-ce qu'on a donné d'un côté, est-ce qu'on ne va pas le reprendre de l'autre à un moment ou à un autre?
Vous savez, on aura ce débat budgétaire à la rentrée. Ouais. C'est le sens, justement, du calendrier budgétaire. Les arbitrages vont être définitivement faits au cours de l'été. Je crois que ce qui a été annoncé par le gouvernement, par cette réforme fiscale, par le fait aussi de revenir sur un certain nombre de niches fiscales, va évidemment dans le bon sens. C'est en tout cas ce qui nous a été dit par les Français. Et quand les Français disent quelque chose avec autant de force qu'ils l'ont dit, pas forcément au moment des Gilets jaunes, mais à l'occasion du grand débat, il faut savoir l'entendre.
Dernière question, peut-être.
Allez-y.
Est-ce que vous pensez que cet apaisement des Gilets jaunes, qui sont plus très nombreux dans les rues, est-ce que vous pensez que la situation sociale reste encore fragile et inflammable ?
Situation, vous savez, on est dans un pays qui n'a jamais su vraiment se transformer, et je le dis, vous connaissez mon parcours, on a encore beaucoup de chantiers devant nous, le chantier de l'assurance chômage qui a été annoncé par le gouvernement, le chantier de la réforme des retraites, la dépendance, on a des points de transformation très importants à l'agenda politique devant nous, tout est toujours très inflammable. Ce qui compte, c'est de pouvoir avancer dans l'écoute, dans le respect et avancer en entendant ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, ceux qui vont devoir enrichir, amender, confronter nos idées. Je crois dans la démocratie sociale, c'est une des grandes forces de ce pays et c'est évidemment ce que j'appelle de mes voeux sur ces grandes réformes et ces grands sujets sociaux.
Est-ce que vous avez apprécié qu'on ne vous ait pas parlé de la canicule ?
Écoutez, la canicule, on la vit. Oui, moi, aujourd'hui,
parce qu'on en parle beaucoup.
Mais on en parle beaucoup et je crois qu'on a raison.
Oh non, on en parle trop peut-être.
Non, on n'en parle pas de trop. Vous savez, moi j'étais dans un EHPAD à Paris, dans le 18e arrondissement ce matin, pour aller à la fois à la rencontre de nos aînés qui souffrent de la canicule, pour aller aussi saluer la mobilisation du personnel qui travaille aux côtés de ces aînés. La canicule, on en a beaucoup souffert en 2003. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Je crois qu'aujourd'hui, le pays a su être résilient, se reconstruire. Mais quand il y a un épisode aussi grave que celui-là, il faut se mobiliser parce qu'il en va de la santé de nos concitoyens.
Merci, Hugues Ranson. C'est la fin de cette émission.